Au sommaire de ce journal, pour le leader de la révolution islamique d'Iran, la relance du front de la résistance était grande réussite du lieutenant général Rostem Soleimani. L'Iran est opposé à la présence de pays étrangers dans la région, déclaration du chef de la diplomatie iranienne à l'adresse de son homologue azerbaïdjanais. Et puis, une explosion près de l'aéroport militaire de Kaboul fait plusieurs victimes en Afghanistan. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique iranienne a décrit la relance du front de la résistance comme une grande réussite du lieutenant général Rostem Soleimani. Le leader de la République islamique d'Iran, l'Oyatollah Seyed Ali Khamenei, s'exprimait à la veille du triste anniversaire de la mort en martyr du très haut général iranien Rostem Soleimani, a déclaré que le héros de la lutte anti-Daesh avait protégé, équipé et préparé la résistance contre le régime israélien et contre l'influence des États-Unis et d'autres pays arrogants. Il a qualifié la défaite de Daesh de réalisation majeure du général Soleimani. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que le général Soleimani avait soutenu la résistance en Irak et en Syrie en utilisant leurs potentiels nationaux. Le général Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI d'Iran, et ses compagnons irakiens, dont Abu Mahdi al-Muhandis, le commandant en second des unités de mobilisation populaire Hashd al-Shaabi irakienne, sont morts en martyr dans une frappe de drone américain le 3 janvier 2020. La frappe menée près de l'aéroport international de Bagdad a été autorisée par le président américain de l'époque Donald Trump. Les deux commandants antiterroristes réputés étaient extrêmement respectés et admirés dans toute la région pour leur rôle clé dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh dans la région, en particulier en Irak et en Syrie. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'Iran est opposé à la présence de pays étrangers dans la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a échangé lors d'un entretien téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov, sur les questions bilatérales et régionales. Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué la volonté de l'Iran de renforcer les liens de transport et de transit avec la République d'Azerbaïdjan. Amir Abdollahian a réaffirmé l'opposition de l'Iran à la présence de pays étrangers dans la région. Il a souligné que les pays de la région sont capables de résoudre correctement les problèmes de la région en adoptant des approches positives. La formation de groupes de travail pour coordonner les activités médiatiques et l'examen de la pollution de la rivière frontalière Aras ont été parmi les autres questions proposées par le ministre iranien des Affaires étrangères lors de cet entretien téléphonique. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a pour sa part souligné l'importance de la coopération avec la République islamique d'Iran. Selon le directeur du comité spécial pour le suivi de l'affaire de l'assassinat du général Soleimani, le dossier de l'ex-commandant de la force Quds du CGRI dans sa phase finale de l'acte d'accusation. Téhéran poursuit sérieusement une procédure judiciaire pour servir la justice dans l'affaire de l'assassinat en 2020 du commandant antiterroriste iranien, le lieutenant général Rostem Soleimani, par les États-Unis. Abbas Ali Katrodaï, qui dirige un comité spécial spécialement formé pour suivre l'affaire de l'assassinat du général Soleimani, a pris part à une réunion sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en Asie de l'Ouest. Il a déclaré que le pouvoir judiciaire iranien et le ministère des Affaires étrangères poursuivaient cette affaire avec précision. L'armée iranienne a entamé la première phase opérationnelle de ses exercices annuels près de la ville portuaire méridionale de Jask. Le troisième jour des exercices, les unités de l'armée ont testé avec succès le système antimissile portable Qadir ainsi que les systèmes de défense aérienne Mersad et Talash. Tous sont de fabrication iranienne. Les forces navales ont également testé une gamme de torpilles de différentes classes de sous-marins. L'une des torpilles, baptisée Mi'ad, a été lancée pour la première fois depuis les sous-marins lourds de la classe Tarek de la marine. Les armes comprennent la torpille de classe Valfajr, qui est un intercepteur tactique grâce à sa grande vitesse et sa puissante ogive. L'actualité régionale avec l'Afghanistan, le ministère afghan de l'Intérieur annonce une explosion à l'extérieur de l'aéroport militaire de la capitale Kaboul. Le porte-parole du ministère afghan affirme que l'explosion a fait des victimes civiles, mais il n'en a pas précisé le nombre exact. La cause de l'explosion n'a pas été encore élucidée et une enquête est en cours. L'aéroport militaire est proche du bâtiment du ministère de l'Intérieur des talibans. Enfin, le Yémen, le ministère yéménite de la Santé condamne le bombardement de civils dans la région frontalière, le qualifiant de crime de guerre. Les forces saoudiennes ont attaqué des civils dans les zones frontalières du gouvernorat de Saada, tuant un certain nombre de personnes, dont des immigrants africains. L'ONG des droits de l'homme, AIN, a appelé à la formation d'un comité international pour enquêter sur les crimes commis par la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite contre le peuple innocent du Yémen. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Campagne sur plusieurs fronts contre l'Iran avec un seul objectif, changement de régime. Il y a une campagne permanente sur les réseaux sociaux contre la République islamique d'Iran, une campagne qui s'est intensifiée après la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre. Cette fois, la campagne s'est concentrée sur les droits des femmes et la justice. Le récit principal, ici, est qu'une révolution féministe est en cours dans les rues de l'Iran. Ce récit est construit autour de l'idée d'un soulèvement pacifique et général contre le régime islamique, un régime qui tente d'arrêter la vague historique qui pointe vers sa dissolution politique. L'idée d'un mouvement pacifique est centrale dans cet exercice discursif. Et c'est pourquoi on ne peut pas voir ou lire dans les médias occidentaux mainstream des cas de jeunes volontaires de la mobilisation populaire, appelés Basij, tués par des émeutiers armés ou des menaces de mort contre ceux considérés comme des collaborateurs du régime. Les rapports sur ces attaques de foule se seraient heurtés à leur récit d'une révolution soi-disant pacifique. La violence, après tout, c'est le langage de la République islamique, n'est-ce pas ? Avance-t-il ? C'est du moins ce que les libéraux en Iran, comme un certain Sader Ziba Kalam, voudraient faire croire aux gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Ils nous disent aussi que la démocratie, la tolérance et le dialogue sont des caractéristiques intrinsèques de leur vision politique. Mais on ne veut pas parler, encore une fois, du fantasme libéral, d'une vision politique non violente et non raciale. Le libéralisme aspire à être un langage politique universel qui ne laisse aucune place aux possibilités alternatives. Il existe d'autres soi-disant groupes d'opposition qu'il convient de mentionner ici. Commençons par les pro-Pahlavi, l'ex-régime despotique. Ils sont animés par un sentiment de nostalgie, un attachement sentimental à une époque révolue. Mais qu'en est-il de leur vision politique ? Se demandent les experts. Les Pahlavi despotiques faisaient partie de ce que le professeur Salman Saïd appelle le kémalisme. Le kémalisme, pour lui, ce n'est pas seulement la modernisation, mais l'occidentalisation. Il est utilisé pour décrire la série de transformations au cours desquelles les gouvernements dirigés par ceux qui se disent musulmans ont mené des réformes qui ont sapé la possibilité d'une agence politique musulmane. La famille kémaliste ne comprend pas seulement les Pahlavis, Bourguiba en Tunisie, Atatürk en Turquie et Saoud en Arabie saoudite sont tous des exemples de cette famille politique. L'une des principales caractéristiques du kémalisme est l'idée que l'islam ne peut être rompu au statut d'identité politique. Les Pahlavis en Iran ont retiré l'influence de l'islam politique, des institutions publiques. Ils ont préféré la langue pré-islamique non pas à cause de ses valeurs historiques, mais parce qu'ils pensaient que le recours à un passé persan effacerait la possibilité d'une agence musulmane. Comme la révolution islamique nous l'a montré, ils avaient totalement tort. L'agence musulmane a été le moteur de la révolution islamique, la même révolution qui a mis le dernier clou dans le cercueil kémaliste, du moins en Iran. Les Pahlavis sont partis, mais l'idéologie kémaliste est toujours présente et exprime toujours sa haine contre la République islamique. L'organisation des Moudjahidine Khal, OMK, est essentiellement une organisation sectaire, vilipendée par les Iraniens, même ceux qui ne soutiennent pas la politique représentée, disons, par la République islamique, parce qu'ils se sont rangés du côté de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran dans les années 1980. Au moins 15 000 Iraniens ont été tués par le groupe terroriste depuis l'établissement de la République islamique en 1979. Et de nos jours, l'OMK terroriste est soutenu par des figures comme John Bolton, l'ancien conseiller belliciste américain à la sécurité nationale. Le groupe entretient également de bonnes relations avec le régime sioniste et son agence d'espionnage Mossad. Les autorités iraniennes affirment que le groupe terroriste était à l'origine de certains des sabotages et des assassinats des forces de sécurité dans le pays ces derniers mois. L'OMK fonctionne comme une sorte de groupe mandataire pour les États-Unis et leurs alliés. Allons décortiquer le sujet. Si nous définissons le pouvoir comme la capacité d'action autonome, il est facile de voir que l'OMK n'a pas de pouvoir propre. Le groupe terroriste compte sur les États-Unis et le régime israélien pour sa survie, tant sur le plan politique que financier. On ne parle pas ici seulement du soutien matériel et économique que le groupe reçoit de l'Occident. Il reçoit des milliers de dollars en paiement de son rôle de mandataire au nom de l'Occident et de l'Arabie saoudite. On parle aussi ici des éléments discursifs que le groupe tente d'articuler. Ces éléments discursifs ne sont même pas originaux. Le groupe limite simplement certains concepts occidentaux et essaie de les assaisonner d'une saveur persane afin de rendre leur message plus acceptable. En d'autres termes, le discours de l'OMK n'est pas une sorte de message nativiste et iranien. Sa grammaire occidentale est déguisée, du moins le pense-t-il, en une sorte de langue nationaliste ou en langue meurtrière déguisée en discours pro-droits de l'homme.